suis Agnès, professeure de yoga, biologiste et docteur en neurosciences, et je suis très heureuse de te retrouver sur le podcast « Ta blessure, ta chance ». Que tu sois un sportif assidu qui a déjà connu la frustration des douleurs chroniques ou de la blessure, ou bien que tu débutes le sport et que tu t'interroges sur la prévention des douleurs, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je t'accompagne dans la gestion et la prévention des douleurs récurrentes et des blessures sportives grâce aux outils du yoga, des neurosciences et de la physiologie du sportif. Moi-même passionnée de sport, j'ai connu la frustration des blessures à répétition avant de découvrir les différents outils du yoga. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser mes compétences et mon expérience pour aider les sportifs qui font face à des douleurs récurrentes ou à des blessures à s'épanouir dans leur activité sportive. Bonjour, je suis très contente de vous accueillir pour ce nouvel épisode qui traite d'un de ces thèmes dont on entend pas mal parler, mais souvent en pointillé. Ici, j'ai envie d'aborder de manière concise mais précise le sujet du jour, la dopamine. Je suis sûre que c'est un mot que vous avez déjà entendu, mais on va voir dans une première partie ce dont il s'agit pour pouvoir ensuite aborder deux points qui peuvent sembler antagonistes. Tout d'abord, en quoi la dopamine est un allié de l'activité physique, et puis en quoi c'est aussi un ennemi qui avance souvent masqué dans notre quotidien moderne. Et puis comme d'habitude, on terminera avec une partie pratico-pratique, comment bien gérer ces niveaux de dopamine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que pour suivre ce qui se passe dans mon univers, qu'il s'agisse du yoga en ligne avec mon studio en ligne ou bien du yoga en présentiel avec les cours, les ateliers de yoga et d'art créatif, les yoga brunch, les yoga goûter, la retraite à Bali, eh bien tout se passe dans ma newsletter. Je ne vous spamme pas, c'est promis, je vous envoie juste un petit mail tous les 15 jours avec à chaque fois un article exclusif. Et c'est aussi important pour moi car je communique aussi pas mal sur Instagram, sauf que à tout moment, il peut y avoir des soucis avec un compte Instagram, pirate du chien tête en bas et hop, bye bye le compte Instagram. Et puis, justement, Instagram c'est super, mais c'est un lieu de débauche pour la dopamine. On en reparlera un peu plus loin. Donc, c'est le moment de mettre sur pause et d'aller trouver le lien dans les commentaires pour s'inscrire à cette newsletter. Et sans plus attendre, je commence avec le commencement. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de SVT, mais juste donner quelques infos sur la dopamine pour que ce que je vous raconte ensuite ait du sens. D'ailleurs, j'ai appelé ma première partie « Introduction à la dopamine ». C'est un petit peu scolaire, mais vous allez voir, je vais être relativement concise. Alors, la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui joue un rôle majeur dans notre cerveau et notre corps, notamment dans le contexte du sport et de la récupération. Un neurotransmetteur, si tu te souviens de tes cours de quatrième, j'ai un peu occulté mes souvenirs à l'éducation nationale, mais si je me souviens bien, c'est en classe de quatrième qu'on aborde cette notion. Donc c'est un neurotransmetteur, c'est une molécule, un messager chimique qui permet aux neurones de communiquer entre eux au niveau de zones appelées synapses. D'ailleurs, c'est un excellent mot au Scrabble ou bien à placer dans un dîner mondain. Tiens, ce petit sauté de veau active mes synapses dopaminergiques. Et oui, la dopamine est un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense, mais son rôle va bien au-delà de ses sensations. On en reparle plus tard. La dopamine est produite dans plusieurs régions du cerveau, notamment dans le système limbique, qui est fortement impliqué dans la gestion des émotions, et dans l'aire tegmentale ventrale, une zone liée à la motivation et au plaisir. La dopamine est donc libérée lors d'activités gratifiantes comme manger, pratiquer des loisirs et bien sûr faire de l'exercice physique. C'est pourquoi après une bonne séance d'entraînement, nous ressentons souvent ce qu'on appelle, alors en course à pied par exemple, le « high du coureur ». Une sensation de bien-être et d'euphorie. Ce n'est pas lié qu'à la dopamine, mais dans le cadre de cet épisode, on va rester simplement sur ce neurotransmetteur-là. Mais la dopamine n'est pas qu'un simple vecteur de plaisir. Elle influence également notre motivation, notre concentration, notre capacité à percevoir des récompenses. Cela en fait un élément crucial pour la gestion de nos objectifs et pour notre persévérance. Dans le contexte sportif, la dopamine peut être vue comme un des carburants de notre motivation interne. Elle nous pousse à nous surpasser, à relever des défis et à atteindre nos objectifs. Qu'on soit clair, je ne prétends pas que niveau de dopamine égale motivation. Bien évidemment, l'équation est plus complexe, mais c'est un des aspects qui conditionne notre niveau de motivation. Et là, vous allez me dire, mais c'est trop cool la dopamine, où ça s'achète ? Alors oui, il y a des aspects positifs qu'on va voir à présent, mais aussi des gros aspects négatifs dont il est nécessaire d'avoir conscience afin d'en éviter les pièges. On passe donc à la deuxième partie. Comment la dopamine peut devenir votre allié dans la quête d'une meilleure santé et de performances sportives optimales ? Alors pour ça, on va décortiquer comment l'activité physique influence nos niveaux de dopamine et réciproquement, comment ce neurotransmetteur affecte notre performance sportive. Le sport est un puissant stimulant pour notre cerveau. Lorsque nous faisons de l'exercice, notre corps augmente la production de dopamine, ce qui entraîne une sensation de bien-être et de satisfaction. Une étude qui a impliqué des rats soumis à un programme d'exercice, j'imagine trop les rats en train de faire l'exercice dans leur petite cage, a constaté une augmentation significative des niveaux de dopamine dans leur cerveau. Cette augmentation est une des raisons pour lesquelles l'activité physique est souvent recommandée comme une thérapie naturelle contre le stress, l'anxiété et même la dépression. C'est d'autant plus vrai d'ailleurs qu'on va pratiquer en extérieur. Des études suggèrent aussi que l'exercice régulier favorise la sensibilité des récepteurs à la dopamine. Cela signifie que non seulement le corps produit plus de dopamine, mais il devient aussi plus réceptif à ce neurotransmetteur. C'est un des mécanismes qui explique que la pratique du sport améliore notre humeur et notre motivation de façon durable. Suivant les pratiques en endurance ou en force, ou bien les pratiques de type yoga, la régulation des taux et de la sensibilité à la dopamine sera différente, mais l'idée, c'est que bouger permet, via en particulier la dopamine, de se sentir bien. Et c'est aussi une des raisons qui explique que quand on ne peut plus pratiquer, eh bien, on se sent un peu comme une choucroute sans saucisse. Alors, je ne prends pas que des métaphores très cohérentes hein, pour une végétarienne, mais voilà, bon, c'est celle qui me vient. Donc, comme je le disais, dans le contexte sportif, la dopamine joue un rôle crucial en agissant comme un moteur de notre motivation. Elle nous aide à anticiper le plaisir et la satisfaction liés à l'atteinte de nos objectifs sportifs, qu'il s'agisse d'améliorer notre temps de course, de soulever plus de poids ou simplement de finir une séance d'entraînement intensive. Et je suis sûre que vous avez déjà connu ça. Pas de motivation réelle, alors par exemple quand il pleut et qu'on sait qu'on va se faire tremper pendant un run, ce que beaucoup de coureurs n'affectionnent pas plus que ça, mais la motivation liée à l'état de bien-être qu'on anticipe va, elle, nous pousser à aller faire notre séance. Ce mécanisme de récompense explique aussi l'importance de la persévérance, de la rigueur et de la régularité, notre règle de vie yogique, appelé tapas. En pratiquant régulièrement, alors j'ai dit régulièrement, mais on se souvient bien sûr de respecter la notion de progressivité. On ne passe pas de zéro activité à une pratique intense du jour au lendemain en se disant « je vais me faire plein de shoots de dopamine ». Donc lors de la pratique régulière, on va accéder à l'aspect agréable de l'exercice, mais aussi à l'envie de répéter. Donc il se crée un cercle vertueux. Plus nous faisons de sport, plus nous ressentons de plaisir et de satisfaction, ce qui nous incite à continuer. Et je suis sûre que vous sentez déjà la bascule du cercle vertueux vers le cercle vicieux. Mais on y vient un peu plus tard. Les sportifs peuvent aussi tirer parti de la dopamine pour améliorer leur performance. La capacité de ce neurotransmetteur à améliorer la concentration et la coordination est particulièrement bénéfique dans les sports qui nécessitent une grande précision et une forte attention, comme par exemple le tennis, le golf, les arts martiaux, etc. De plus, la dopamine peut aider à gérer la douleur et la fatigue. En effet, des niveaux élevés de dopamine peuvent atténuer la perception de la douleur et permettre ainsi aux athlètes de pousser leurs limites physiques plus loin et aussi, en réalité, de récupérer plus efficacement après l'effort. Mais là encore, vous sentez que l'équilibre va être crucial pour une pratique saine et à long terme. La dopamine, comme je le disais, hein, contribue par exemple au high du coureur, qu'on appelle aussi l'ivresse du coureur, cette sensation euphorique ressentie après une longue course. Et les coureurs de longue distance, y compris les marathoniens, expérimentent cette hausse de dopamine, ce qui contribue à leur sensation de bien-être, mais aussi qui contribue à peut-être les rendre accros à l'exercice, ce qu'on va voir un peu plus loin. Donc, pour résumer, la dopamine, pour les sportifs, contribue au plaisir et au bien-être liés à la pratique, mais peut aussi améliorer la concentration et la coordination, par exemple. Elle peut enfin jouer un rôle dans la réduction de la douleur et la prévention, par exemple, des douleurs récurrentes et des blessures, en encourageant des comportements de récupération sains et en contribuant à une meilleure récupération musculaire et psychologique. Et c'est sur cette partie que je voulais revenir. La dopamine, associée à d'autres neurotransmetteurs ou d'autres hormones, est vraiment un atout pour réduire le stress et améliorer la qualité du sommeil. C'est donc un atout puissant pour consolider un des piliers non négociables pour un corps en forme, j'ai nommé la diminution du stress et un sommeil de qualité. Et je radote, mais c'est vraiment quelque chose qui parfois a du mal à s'ancrer dans les habitudes. Il ne sert à rien d'acheter les dernières gélules miracles ou le dernier accessoire de récupération à la mode si au quotidien tu es stressé comme un teckel dans un élevage d'American Staff. Voilà, décidément, je suis très inspirée aujourd'hui pour les métaphores. Et ceci dit, pour avoir grandi en compagnie des deux, Tekel et American Staff, s'ils grandissent ensemble, là, ils deviennent super copains et ce n'est pas forcément celui qu'on croit qui fait la loi. Mais bon, j'arrête ici de vous parler des Tekel psychopathes avec qui j'ai grandi. Hein. Ils faisaient aussi la course avec notre cochon. Oui, on avait un cochon du Vietnam à l'époque et c'était un peu l'Usain Bolt des cochons. Voilà, voilà. Bon, j'en reviens à mes moutons. voilà, donc ça n'a pas dû les aider à être équilibrés mentalement quand même, les Tekel, hein, qui faisaient la misère au staff. Bref, tout ça pour dire que rien ne sert d'espérer gérer des douleurs avec des solutions miracles si tu es stressé et que tu n'as pas un sommeil de qualité. Et ça explique pourquoi aussi, quand on est blessé, le zéro activité physique n'est pas recommandé. Mais qu'au contraire, même si on doit arrêter son sport de prédilection, il est nécessaire de continuer à bouger, ne serait-ce que pour utiliser le sport comme générateur de dopamine et d'autres molécules qui agissent dans le même sens afin d'être plus zen et de mieux dormir pour récupérer mieux et plus rapidement. Pour l'instant, on a donc parlé de la dopamine en termes élogieux et pourtant. La dopamine est l'hormone du plaisir associée au circuit de la récompense, qu'on appelle aussi circuit de l'addiction. Addiction aux drogues, par exemple, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'a pas besoin d'être cocaïnomane pour activer ce circuit et devenir dépendant. Et en parlant de cocaïne, ça dérive aujourd'hui, hein, ce podcast. Donc en parlant de cocaïne, le sucre raffiné est plus addictif que la cocaïne. Donc via ce circuit, on peut devenir accro au sucre, pas d'ailleurs que accro au sucre, on verra bien sûr aussi, vous le sentez venir, accro au sport. Et c'est aussi le cas de certaines combinaisons comme le gras plus le sucré. McDo et d'autres sucres cachés, bonjour. On peut devenir accro aux additifs alimentaires. Alors je sais, c'est très étonnant car ces additifs, même s'ils n'ont pas de goût, ont tendance à rendre accro à la nourriture ultra transformée. Hein. C'est prouvé scientifiquement. Et c'est aussi, tant qu'on y est, le cas des réseaux sociaux. Je dérive un peu, mais c'est vraiment un message que j'ai envie d'évoquer. En parlant de cette dopamine, c'est vraiment le moment. Car en prendre conscience, c'est un pas important vers la gestion de ces addictions, la gestion de la dopamine. Chaque scroll sur un réseau social, c'est un shoot de dopamine. Et c'est un peu comme les jeux. Chaque fois qu'on lance la roulette, on produit un shoot de dopamine. Et si je gagnais ? Dans le cas d'Instagram, et si je découvrais une publication qui va changer ma vie ? J'exagère, hein, mais c'est le mécanisme qui est en action à chaque fois que tu découvres une nouvelle publication. Alors, en quoi ça nous concerne en tant que sportif ou yogi ? Eh bien, le fait de déréguler nos taux de dopamine va impacter aussi sur le lien entre dopamine et exercice physique. Donc, tu l'as compris, nous allons passer au côté sombre de la force, la dopamine qui nous mine. C'est magnifique, ces rimes. Donc, on passe à cette troisième partie. Alors que la dopamine joue un rôle crucial, hein, comme je vous le disais, dans l'amélioration de la performance sportive et dans la sensation de bien-être, il est vraiment essentiel de comprendre que, comme toute chose, l'excès ou le déficit peut avoir des conséquences négatives. Un déséquilibre en dopamine peut conduire à des problèmes aussi bien physiques que psychologiques. On va commencer par l'excès de dopamine. L'excès de dopamine qui mène à une quête incessante de la récompense. Et ça, c'est l'addiction. Dans le contexte sportif, cela peut se traduire par une addiction au sport, mais c'est valable dans d'autres contextes dont j'ai parlé précédemment. Et je répète, hein, y a vraiment ce high du coureur, par exemple. Certains coureurs peuvent devenir tellement accrochés à la sensation euphorique procurée par l'activité physique qu'ils en viennent à négliger les signaux de leur corps, conduisant à un surmenage, à des blessures et un épuisement physique. Et ce qui est compliqué, c'est que ce high, justement, masque les signaux qu'on devrait écouter jusqu'à un point de non-retour qui peut être le burn-out ou la blessure sportive. De plus, la dopamine ayant un rôle dans la régulation des cycles de sommeil, un déséquilibre peut perturber le sommeil et par conséquent la récupération. Une trop grande quantité de dopamine, par exemple, peut entraîner de l'insomnie. Donc, un taux trop élevé de dopamine lié à la pratique sportive peut nuire au sommeil, mais un sportif qui serait attentif à pratiquer de manière raisonnée, mais qui à côté serait accro à son téléphone ou au sucre, impacterait la qualité du sommeil et favoriserait là encore le risque de blessure. Donc comme la gestion du stress, la gestion des addictions doit être faite de manière globale. Comme tu peux t'en douter, suite aux explications du rôle de la dopamine, un niveau insuffisant de dopamine peut également être problématique. Il peut mener à un manque de motivation, à la fatigue et à une forme de dépression. Chez les sportifs, cela se manifeste souvent par une difficulté à s'engager dans l'entraînement, une diminution des performances et un sentiment général de mal-être. Ce déficit en dopamine peut rendre les séances d'entraînement non seulement plus difficiles, mais aussi moins satisfaisantes. Et vous allez me dire, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi un sportif aurait des taux de dopamine bas alors qu'il les booste par sa pratique? Des taux trop faibles de dopamine peuvent être liés à plusieurs facteurs, souvent liés au mode de vie, à l'entraînement sportif lui-même ou à l'état de santé général. Et j'ai juste listé quelques raisons potentielles. Première raison, le surmenage et le surentraînement. L'une des causes les plus courantes de faibles niveaux de dopamine chez les sportifs est le surentraînement. Ça peut paraître contre-intuitif, mais pourtant, on retrouve ça pour de nombreuses molécules produites dans le corps. À trop produire, on finit par épuiser. Lorsque le corps est soumis à un stress physique excessif, sans récupération adéquate, les systèmes de récompense du cerveau peuvent s'épuiser et conduire à une diminution de la production de dopamine. Une deuxième piste, c'est la mauvaise alimentation. La dopamine est synthétisée à partir de tyrosine, un acide aminé que nous obtenons de notre alimentation. Et une alimentation pauvre en nutriments, en particulier en protéines et en certains acides aminés, peut réduire la capacité de l'organisme à produire de la dopamine. Là encore, l'alimentation est un pilier incontournable. Je reviens ensuite vers une troisième piste, le manque de sommeil. On a dit que la dopamine influence le sommeil, mais l'inverse est vrai. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité affecte négativement la régulation des neurotransmetteurs, y compris de la dopamine. Le sommeil joue donc un rôle crucial dans la régénération des fonctions du cerveau et le manque de repos peut entraîner une baisse de la production de dopamine. Un autre point à évoquer, c'est le stress chronique. Encore lui. Le stress prolongé amène le cerveau à s'adapter en permanence à l'état de stress, ce qui pourra conduire à épuiser les réserves de dopamine. Le lien entre la dopamine et l'hormone du stress, le cortisol, est complexe car ces deux substances chimiques jouent des rôles importants mais différents dans la réponse du corps au stress. Elles peuvent interagir plus ou moins directement. Par exemple, le cortisol peut influencer la manière dont le cerveau utilise la dopamine. Un taux élevé de cortisol sur une longue période peut réduire la sensibilité des récepteurs à la dopamine, ce qui peut conduire à des changements d'humeur, une diminution de la motivation et même des symptômes dépressifs chez certains individus. Je n'irai pas plus loin sur cet aspect-là, mais vous comprenez bien, toujours, je le répète, l'importance de gérer son stress et en particulier le stress chronique. On peut aussi aller chercher des pistes quand on soupçonne qu'on manque de dopamine vers des problèmes de santé mentale, des troubles tels que la dépression et certains troubles anxieux. Ils peuvent être associés à des niveaux bas de dopamine. Alors, on n'explique pas toujours ces niveaux bas de certains neurotransmetteurs, mais on sait que certaines personnes vont être plus ou moins sujettes à ce genre de troubles, avec une part de génétique et une part environnementale. La dernière piste est l'usage de substances. La consommation de drogue, d'alcool ou de certains médicaments peut interférer avec la production et la régulation de la dopamine dans le cerveau. En résumé, bien que la dopamine soit essentielle pour la motivation et la récompense dans le sport, il est crucial de maintenir un équilibre. Une gestion appropriée des niveaux de dopamine est nécessaire pour éviter les pièges de l'excès ou du déficit et assurer ainsi une meilleure santé mentale et physique, ainsi qu'une performance sportive optimale. Et c'est le moment où on quitte l'aspect théorique pour passer à la partie tips. Donc, comment gérer les niveaux de dopamine pour une récupération optimale. Vous l'aurez compris, pour les sportifs, mais pas que, hein, bien sûr, gérer les niveaux de dopamine est crucial pour optimiser la récupération, la performance et le bien-être général tout simplement. Avant de commencer, il est important de faire la différence entre un déséquilibre lié à un mode de vie qu'on va pouvoir corriger et des troubles tels que la dépression. La dépression, ce n'est pas une personne qui a la flemme de se bouger. La dépression, c'est un diagnostic clinique qui doit être pris en charge. Alors, il y a différents types de dépression, certains liés à des événements particuliers, d'autres pas. Et la prise en charge médicale est importante, qu'elle conduise à une prise en charge psychologique ou médicamenteuse. Mais s'il n'est pas question de dépression ou d'addiction sévère, là encore, hein, c'est bien sûr important de se faire aider par un spécialiste. Alors voici quelques conseils pour des niveaux de dopamine équilibrés et quelques stratégies clés pour soutenir la production de dopamine de manière saine et efficace. Pour commencer, petit 1, la gestion des écrans. Je n'y reviens pas, mais le scrolling, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'ennemi de l'équilibre dopaminergique. La facilité, c'est scroller, mais gérer son usage du téléphone en créant des règles d'utilisation, par exemple, hein, ça, c'est un impact positif assuré. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est bien sûr les stratégies alimentaires. L'alimentation joue un rôle majeur dans la régulation des niveaux de dopamine. Certains aliments et nutriments sont particulièrement bénéfiques pour soutenir la production de ce neurotransmetteur. Alors ce sont ici des petits conseils hein, qui n'ont pas valeur de consultation en nutrition. Donc vous pouvez implémenter bien sûr ces petits conseils, je vous y encourage, mais n'hésitez pas à aller consulter un nutritionniste si vous estimez que c'est un domaine où vous avez vraiment de nombreuses améliorations à faire. Donc pour des niveaux équilibrés en dopamine, il est conseillé de consommer tout d'abord, des aliments riches en tyrosine. Comme je l'ai dit, la tyrosine est un acide aminé précurseur de la dopamine. Les aliments riches en tyrosine incluent le poulet, le bœuf, les œufs, les produits laitiers, les noix, les graines, le soja. Alors, comme je le répète souvent, il est possible de manger de manière équilibrée en étant végétarien, voire végétalien, mais cela signifie de porter une attention particulière à cet apport en protéines. Autre stratégie alimentaire, des aliments riches en antioxydants. Alors c'est assez indirect, mais manger une alimentation antioxydante ralentit le vieillissement cellulaire, y compris le vieillissement des neurones. C'est donc une action à long terme, mais une action essentielle. Les fruits et les légumes colorés comme les baies, les épinards et les poivrons sont des aliments phares à utiliser régulièrement. Et bien sûr, comme je vous le suggérais, limiter la consommation de sucre blanc et de produits ultra transformés, ça c'est vraiment un non négociable. Pour terminer, quid des suppléments? Alors dans certains cas, des suppléments comme la L-tyrosine, le magnésium et les oméga-3 peuvent être recommandés pour soutenir directement ou indirectement la production de dopamine de manière durable. Mais là encore, je conseille de consulter une personne spécialisée pour adopter la meilleure des stratégies. Autre piste pour réguler les taux de dopamine. Bien sûr, vous le sentez venir, c'est l'importance du repos, de la récupération active et de la gestion du stress. Je le répète, mais c'est normal, c'est un peu le message clé que je veux faire passer et la raison pour laquelle j'ai ouvert mon studio en ligne. C'est un message qui est souvent entendu, mais pas toujours écouté. Un sommeil de qualité, c'est essentiel pour réguler les neurotransmetteurs, y compris la dopamine. Donc, il est important de maintenir une routine de sommeil régulière et de favoriser un environnement propice au repos. Cela peut se faire par des routines qui contiennent un zeste de méditation, quelques gouttes d'huile essentielle ou encore une cuillerée de journaling. Voilà, une petite recette. Pour ceux que l'ajout des huiles essentielles dans leur routine intéresse, je propose des entretiens gratuits individuels ou des ateliers gratuits également en ligne. Je pense d'ailleurs donner accès au replay des ateliers. Je n'ai pas encore à l'heure où j'enregistre ce podcast décidé par quel moyen, mais je suis sûre que vous pourrez trouver via mon profil Instagram ou sur mon site les replays des ateliers. Alors, j'insiste aussi sur la récupération active. La récupération active, c'est une activité physique douce comme la marche légère, les étirements ou le vélo à faible intensité. Et ça peut aider à maintenir une production saine de dopamine tout en favorisant la récupération physique. Donc on équilibre les séances intenses avec des moments plus cool. Pour la gestion du stress, pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde ou le yoga peut bien sûr être d'une efficacité redoutable pour maintenir un équilibre sain de la dopamine. Et justement, en parlant de yoga, certaines pratiques vont être particulièrement efficaces pour réguler la production de dopamine. Des études montrent que le yoga, en combinant mouvement, respiration et pleine conscience, peut contribuer à réguler la production de dopamine. Les pratiques régulières de yoga peuvent augmenter les niveaux de dopamine et contribuer ainsi à améliorer l'humeur et la concentration. Et certaines postures spécifiques de yoga seront particulièrement efficaces, comme celles qui incluent des inversions. Par exemple, dans une pratique dynamique avec des chiens tête en bas, avec des flexions avant et pourquoi pas des petits équilibres sur la tête. Des étirements profonds aussi peuvent avoir un effet particulièrement positif sur la régulation de la dopamine et sur la réduction du stress. Donc on peut en trouver dans des pratiques dynamiques, mais je conseille bien sûr de les compléter par une pratique yin, dans laquelle on laisse l'étirement profond se faire. Vous trouverez ces deux types de pratiques dans mon studio en ligne, et d'autant plus que dans un souci d'amélioration constante, je suis trop contente, mais je suis en train de compléter actuellement ma formation de yin yoga par une formation de yin et de médecine traditionnelle chinoise. Alors pour résumer, la dopamine c'est chouette, mais trop ou trop peu, et c'est les problèmes qui surgissent. Des problèmes de motivation ou au contraire des problèmes de récupération insuffisante, voire d'addiction. Donc de par son rôle en tant que neurotransmetteur de la motivation mais aussi de la concentration, la dopamine a un impact majeur sur nos comportements et nos émotions. Elle a aussi un impact sur le sommeil et la récupération. Bref, un impact autant sur les performances sportives que sur la récupération et la gestion des blessures. Donc, je rappelle, trop peu de dopamine et c'est la motivation qui devient inexistante, peut-être liée à un mode de vie qui mérite d'être réajusté. Et trop de dopamine peut entraîner des problèmes tels que l'addiction au sport. Et comme souvent, le trop et le trop peu peuvent être liés, sachant que le trop peut conduire ensuite à un trop peu. Pour terminer, équilibrer ses niveaux de dopamine passe par équilibrer ses piliers de vie. L'alimentation, la gestion de la récupération et du stress. Et j'inclus là-dedans la gestion des écrans. Et puis le dernier pilier de vie, le sommeil bien sûr. Si vous sentez que vous avez peut-être un équilibre à trouver pour vous sentir en forme et motivé, n'hésitez pas à aller jeter un œil à mon studio en ligne pour accéder à des vidéos et des audios préenregistrés, mais aussi à des lives de yoga dynamique et des lives de yin yoga toutes les semaines. Et comme d'habitude, je vais clôturer cet épisode en vous remerciant pour avoir écouté et ainsi me soutenir et me permettre d'avancer pas à pas vers l'univers que j'ai envie de créer, aussi bien en ligne qu'en présentiel. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao, ciao !